Au micro, Sylvie Ligi, qui a le plaisir de vous présenter le nouveau numéro des Chroniques pour la paix, émission bimensuelle parrainée par La Paix Maintenant et G-Call. À l'occasion des célébrations annuelles de la Journée de Jérusalem, hier, lundi 26 mai, on a vu le ministre Ben-Gvir se promener sur l'esplanade des mosquées. Nouvelle provocation suprémaciste. Et il a ensuite harangué une foule d'adolescents leur disant « Mort aux Arabes, Gaza est à nous, tuez-les tous ». Et puis il a dansé de joie. Depuis le mois de mars, la guerre à Gaza a repris. Ces derniers jours, l'offensive terrestre est plus forte que jamais. Le bilan humain est insupportable. Il faut mettre un terme aux souffrances, aux tueries à Gaza, a déclaré le chancelier allemand. Pour en parler, nous sommes aujourd'hui en ligne avec Eli Barnavi, historien, diplomate et ancien ambassadeur d'Israël en France. Bonjour Eli Barnavi.
Et merci. Bonjour, bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, donc la guerre se poursuit à Gaza, les réservistes n'en peuvent plus, les soldats d'active ont vu leur service prolongé de plusieurs semaines et entre parenthèses, si je puis dire, une partie de la population refuse de faire le service militaire. Alors, pourquoi cette guerre, à votre avis, quel est son but? Est-elle juste ou au moins justifiée?
Écoutez, il n'y a plus de guerre à Gaza. Le terme est devenu impropre. Il y a eu la guerre pendant les quelques mois au début, lorsque le Hamas était encore organisé comme une armée, avec des bataillons, des régiments, des unités, un armement lourd. Tout ça est terminé, c'est plus la guerre. Le Hamas a été défait, lourdement. Il reste des escouades, il reste rien de l'organisation militaire du Hamas, et il reste très peu de sa gouvernance civile. Donc la guerre n'en est pas une, c'est un assaut contre la population civile essentiellement, dont l'objectif n'a plus rien à voir avec les objectifs affichés qui sont la destruction du Hamas et la récupération des otages. Les otages ont été délibérément sacrifiés et le but à peine caché d'ailleurs de cette opération maintenant, c'est vider la bande de territoire de ses habitants, installer l'occupation israélienne de manière indéfinie et préparer le territoire à l'implantation des colonies à la place de celles qui ont été démantelées il y a 20 ans. Voilà où nous en sommes. Et donc, c'est parler de guerre, c'est vraiment un terme impropre.
Alors, dans ce contexte, avec ces opérations telles que vous les décrivez, Israël, en tous les cas, le gouvernement d'Israël entraîne le pays dans un isolement qu'on n'a jamais vu. Israël est en passe de devenir un État paria qui serait mis au banc de la communauté internationale.
Oui, je ne peux que le constater tristement avec vous. C'est un gouvernement qui se met au banc de la communauté internationale. Et il ne s'agit pas des pays qui nous ont toujours été hostiles, ou des gouvernements hostiles, ou des opinions hostiles. Il s'agit de ce que nous avons comme amis. Et Israël a toujours bénéficié d'un camp puissant d'amis qui lui ont permis de naître, ensuite d'exister, de résister à ses ennemis. Et tout ça est en train de s'effriter. Les gens nous regardent avec effarement. Ils se disent, mais où donc allez-vous? Qu'est-ce que vous êtes en train de devenir?
Alors, qu'est-ce que vous répondez? Où va-t-on? Où va-t-on vraiment?
Je réponds qu'il est temps d'arrêter ce gouvernement par tous les moyens possibles, de manière à ce que nous retrouvions une vie collective à peu près saine, une boussole politique et morale. Et tant que ce gouvernement sera là, ce sera impossible. Vous verrez décrire la journée de Jérusalem. La journée de Jérusalem est un pogrom annuel. Et cette année, ça a été pire que toutes les années précédentes. Chaque année pire. Cette fois, en sud de ce que nous avons vu tous les ans, c'est-à-dire les cris de haine, les chants de Mohammed est mort, que ton village brûle, enfin toutes les joyeusetés que nous avons entendues. Il y a en plus des chants de réjouissance des enfants morts à Gaza. Tout ça sous les yeux d'un gouvernement complice avec le financement de la municipalité de Jérusalem. Et voilà, nous en sommes là. Si on n'arrête pas cette folie, ben Israël sera certainement un état paria, violent, absurde, enfin, un état où des gens normaux ne pourront pas vivre. Beaucoup d'Israéliens votent avec le pied, ils s'en vont par dizaines de milliers. Vous savez, ce n'est pas...
À ce point-là, je n'avais pas entendu de chiffres aussi importants.
On évalue le nombre d'Israéliens qui ont quitté le pays depuis le début de la guerre. Bon, je me trompe, depuis le début de la soi-disant réforme judiciaire.
Janvier 2023.
Oui, janvier 2023, entre 60 et 80 000. Et ce n'est pas n'importe quel Israélien, ce sont des professionnels, des jeunes, nés dans le pays. Enfin, c'est l'infrastructure économique et intellectuelle de ce pays. Voilà, voilà où nous en sommes. Quoi.
Alors, en fait, mais ça fait un moment qu'il y a des manifestations, enfin, depuis janvier 2023, justement, il y a des manifestations tous les samedis et dans la semaine aussi, et qui réclament. Alors, il me semble que là, il y a un mot d'ordre qu'on n'avait pas avant, enfin qui est d'exiger l'arrêt de la guerre, mais en fait, qui est capable aujourd'hui d'arrêter la guerre? C'est l'Europe, c'est les USA,
les pays. C'est Trump qui est capable d'arrêter la guerre, s'il le veut. C'est quand même l'un des paradoxes de notre situation que nous en sommes à dépendre d'un individu comme Trump. C'est pas... Mais voilà, il est le seul à pouvoir le faire, s'il le veut. Nous savons qu'il est exaspéré par la poursuite de la guerre, qu'il voudrait que ça s'arrête, et ce qu'il fera, ce qu'il faudra pour le faire. Et deuxième question que je livre à votre sagacité, mais je suppose que vous en savez autant que moi, est-ce que au point où Netanyahu est arrivé, dans cette espèce de fuite à l'avant folle, est-ce que même Trump sera capable de l'arrêter? Est-ce que dans cette position d'animal blessé où il est, qui joue son va-tout, est-ce qu'il n'est pas capable de dire non même à Trump pour poursuivre sa guerre, puisque la guerre lui assure, la poursuite de la guerre lui assure la survie de son gouvernement, donc la sienne propre, et une autre possibilité qui m'effraie, est-ce qu'il n'est pas capable ou est-ce qu'il est capable de déclencher une opération contre l'Iran, même si Trump ne le souhaite pas, et visiblement il ne le souhaite pas. Voilà, on a devant un homme, une équipe qui n'a littéralement aucune limite, c'est-à-dire tout est possible.
Alors, ça fait longtemps que on sait en Israël que tout est possible, parce qu'on suppute, le lendemain matin, c'est déjà différent. Mais enfin, là, c'est vous dresser un portrait terrible, absolument terrible.
Je ne suis pas le seul. Je vous recommande l'article d'Ehud Olmert dans le dernier numéro de Haaretz. Ehud Olmert, ancien chef de gouvernement, un homme venu de la droite dure, il dresse exactement le même constat que moi. Et il est désespéré. C'est le cas de quelqu'un comme Ehud Barak, lui aussi ancien soldat le plus décoré de Tsahal, chef d'état-major, premier ministre, et qui dit ce gouvernement nous mène à notre perte. Donc, vous savez, je suis une voix parmi beaucoup d'autres. Bon, on m'entend beaucoup en France parce que je m'exprime en français et que les journalistes veulent bien faire appel à moi, mais c'est beaucoup de gens font ce même constat, et qui est un constat d'ailleurs d'impuissance, parce que nous n'avons pas, nous pouvons manifester, nous pouvons nous exprimer encore, je ne sais pas pour combien de temps, mais nous n'avons pas de moyens constitutionnels, institutionnels pour débarrasser de ce gouvernement. Il y a la majorité à la Knesset, et donc c'est compliqué. La seule chose qui pourrait le faire chuter, c'est la grève générale, mais ça, on n'y est pas encore.
Mais voilà, enfin, en France, on aurait tous les syndicats dans la rue qui crieraient déjà depuis longtemps avec des manifestations, etc. Et pourquoi la Istadrout ne fait rien ?
Parce que la Istadrout est essentiellement dans la main des Likoud. Ça ne se s'est pas assez. La Istadrout qui était l'un des piliers de ce pays, qui était le cofondateur de l'État d'Israël et qui était un bastion travailliste. Ça fait longtemps que les principaux conseils d'ouvriers, les principales branches de la Istadrout sont au même de Likoud. Et donc, évidemment, c'est compliqué. Ils ne vont pas se saboter.
Et alors, est-ce qu'il y a une alternative politique en Israël ?
Oui, bien sûr qu'il y a une alternative politique. S'il y a des élections demain, la coalition aujourd'hui au pouvoir les perdra sèchement et il se trouvera une alternative politique. Elle n'est peut-être pas celle que j'aurais souhaitée, ce n'est peut-être pas l'idéal, mais il y a toujours la démocratie, une alternative politique. Et donc on retrouverait sans doute un peu la configuration de ce qu'on appelle le gouvernement du changement, de Bennett et Lapide.
Ouais. Alors à Paris,
il y a... ce sera déjà ça.
Alors à Paris, bientôt, il y aura un sommet pour la reconnaissance de l'État palestinien. Reconnaissance d'ailleurs qui est soutenue, il y a eu une déclaration de La Paix Maintenant et J. Cole, donc qui parraine notre interview d'aujourd'hui. Donc ce serait parrainé par le président Macron. Et puis à New York, une conférence internationale. Qu'est-ce qu'une telle conférence et une reconnaissance de l'État palestinien peut apporter dans la situation dont on vient de parler, qu'on vient de décrire au Moyen-Orient ?
Ce sont deux choses différentes. Il y a la reconnaissance de l'État palestinien, pour laquelle moi je milite depuis des années. Je crois que c'est une très bonne chose. Il faut peser, autant que faire se peut, symboliquement et politiquement, pour éradiquer les refus du transfert de la population palestinienne de la bande de Gaza.
Ça peut aider donc à éviter ce nettoyage en fait de la...
Ça crée une situation diplomatique qui rend la chose un peu plus difficile. Ça crée aussi une situation où l'État palestinien, aussi vide de contenu le soit-il, est plus à même de négocier le moment venu avec l'État d'Israël. C'est-à-dire là, cela corrige quelque peu le déséquilibre entre un État puissant, constitué, reconnu, et une vague autorité au statut indéterminé. C'est important pour la diplomatiquement, symboliquement, politiquement, c'est un pas important. Alors ça a déjà été fait par de nombreux pays à travers le monde, ça a été fait en Europe par un certain nombre d'États, que la France et je l'espère la Grande-Bretagne s'y ajoutent, ça c'est déjà un changement qualitatif important avec la France, avec le pouvoir d'entraînement que ce pays a conservé. Et donc ça c'est une chose. L'autre, c'est vous mentionnez la conférence de New York, co-parrainée par la France et l'Arabie Saoudite. Et ça, c'est important. Ça, c'est un véritable cadre de négociation. Il s'agit de la France, mais, pardonnez-moi, il s'agit surtout de l'Arabie Saoudite. Donc, aujourd'hui, le principal pays arabe sunnite. Et là, on parle déjà, on rentre dans la cour des grands. Et l'espoir c'est d'entraîner les Américains dans cette orbite pour pouvoir faire avec eux, parce que rien ne se fera véritablement sans les Américains. Alors les Américains, c'est Trump, et Trump c'est un personnage fantasque, imprévisible, on ne sait pas trop de quel, mais qui est influençable. C'est-à-dire, il se trouve que ces deux personnages, MBS et Macron, ont de l'influence sur Trump. MBS, évidemment, ça, on l'a encore vu lors de la dernière tournée de Trump dans le Golfe. Oui. Et Macron est le seul leader européen pour qui Trump a du respect. Il y a Meloni aussi, pour des raisons plutôt idéologiques. Mais là, Macron, c'est différent. C'est un homme. Il est viril. Enfin, il y a toute la... Dans la construction baroque mentale de Trump, il y a ça. Macron est quelqu'un de respectable. Les autres ne sont pas. Ils sont des faibles. Lui, il n'est pas faible. Enfin, on en est là. Vous savez, Trump a une intelligence, une sensibilité mentale et sentimentale d'un enfant de 8 ans. Donc, il raisonne comme ça. Si on peut appeler ça raisonner. Et donc là, un front commun franco-saoudien peut avoir, là du coup c'est significatif, il peut peser sur Trump. Ouais. Et donc voilà, je pense que c'est une excellente initiative.
Donc on va terminer peut-être sur cette note optimiste dans cette situation aussi
très modérément optimiste,
mais quand même, voilà. Eh bien, je vous remercie en tous les cas pour ces explications et pour cet éclairage. Au revoir.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Au revoir.